La semaine dernière, l'usine Ford Blanquefort annonçait, en parallèle d'un carnet de commandes toujours plein, 250 licenciements et 250 postes non renouvelés sur 5 ans. Des postes qui seraient remplacés par 12 nouveaux robots 5 axes d'une valeur totale de 14 millions d'euros et par la réorganisation de la chaîne. Un choix qui enflamme le débat depuis la semaine dernière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout en Actu. Nous revenons aujourd'hui sur ce débat qui divise la question de l'innovation. Nous sert-elle, machine à chômage ou créatrice d'emplois? Quels sont ses bénéfices? Quelles en sont ses conséquences? En avons-nous vraiment besoin? Quels impacts sur notre planète? Certains nous parleront des hydroliennes, d'autres des déchets créés en Asie par les batteries au lithium et des ressources qui s'amenuisent. Doit-on se questionner sur la limite éthique de l'innovation? Puce NFC dans le bras, bracelet qui traque les mouvements des employés chez Amazon, téléchirurgie, jusqu'où peut-on aller? Je vous rappelle qu'il est possible d'interagir avec nous avec le hashtag Tout en Actu et en appelant le standard au 0801 801 200. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet. Pour en débattre aujourd'hui, avec nous autour de la table. Monsieur Alexandre Dampierre.
Bonjour, merci de m'avoir invité sur le plateau.
Membre de la majorité à l'Assemblée, avec une position plutôt sociale-libérale, créateur d'un projet de loi qui vise à augmenter le budget de la recherche et qui comprend des baisses d'impôts pour les entreprises allouant un budget supérieur à 25% dans la recherche. Il vient défendre l'importance de l'innovation, entre autres dans la compétitivité avec les entreprises étrangères. Un usager, Éric Chatier.
Bonjour.
Ancien tourneur fraiseur chez Mecarco, avec le changement pour des tourneurs à commande numérique, il a perdu son emploi et on ne lui a pas reproposé de reconversion. Aujourd'hui, toujours à la recherche d'emploi, il vient nous parler des conséquences de l'innovation sur son emploi, sur l'emploi en général et sur la société. Un industriel, Jean-Charles Belotière.
Bonjour.
PDG d'Aleis, bureau d'études dans le domaine de la robotique qui a embauché encore 2 ingénieurs l'année dernière, membre du MEDEF. Aujourd'hui, il vient nous parler de sa position en faveur du développement de l'innovation, de ses bienfaits. Une chercheuse, Diane Favot.
Bonjour.
Sociologue et chercheur en économie au CNRS, auteur d'une thèse sur les conséquences économiques de l'automatisation, auteur du livre « Les robots, moyens de s'émanciper du travail ou asservissement volontaire ». Elle viendra nous parler aujourd'hui des conséquences sur l'économie, positives comme négatives, sur l'emploi, et nous donnera son point de vue général et ses positions de chercheuse sur cette question complexe. Alors je voudrais tout d'abord débuter avec une question un peu introductive. Comment vous définiriez-vous l'innovation? Comment abordez-vous ce terme vague et qu'en pensez-vous? Madame Favot,
Alors pour moi l'innovation, ça va être de créer, d'innover, d'inventer de nouvelles choses qui va permettre de faciliter la vie de l'homme. Donc, en principe c'est ça, sauf que aujourd'hui. Faciliter la vie de l'homme, c'est bien, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec les moyens qu'on emploie. Nous reviendrons plus tard là-dessus. Mmh.
Donc, pour moi, l'innovation, ça me permet d'augmenter mon chiffre d'affaires en tant qu'industriel, en tant que responsable d'entreprise. Ça me permet de diminuer mes coûts et donc d'augmenter ma production et mon chiffre d'affaires annuel.
Très bien. Monsieur Dampierre.
Mes concitoyens ont très bien... résumer un petit peu ce qu'était l'innovation en termes généraux, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, donc en effet ça a permis à notre civilisation de s'élever au rang actuel.
Donc vous êtes pour?
Totalement.
Ok, monsieur Chatier.
Comme l'a dit monsieur Dampierre, ça a permis de s'élever, mais moi par exemple l'innovation c'est ça qui me fait perdre mon emploi. Mm-hmm. Je reviendrai là-dessus plus tard aussi.
Et donc vous êtes plutôt contre
Oui, tout à fait contre l'innovation.
Sous toutes ses formes?
Dans certains domaines.
Dans certains domaines, ok. Alors, tout d'abord, ça me fait venir à une question. Quels sont les impacts de cette innovation sur l'emploi? Et par exemple, vous, Éric Chatier, dans votre situation, qu'en pensez-vous?
Moi, j'ai été remplacé par des machines. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'innovation, ça m'a coûté mon emploi. J'étais tourneur fraiseur dans la société Mecarco. Et tout moi et tous mes collègues, tous les ouvriers, on a été remplacés par des machines. On n'a pas les qualifications requises pour pouvoir travailler sur ces machines, pouvoir les mettre en place. Et on s'est tout simplement éjecté de l'entreprise.
Vous regrettez ce manque de reconversion, ce manque de mise à niveau?
Oui, complètement. Et je regrette aussi l'innovation. Du coup, tout est fait par des machines. Il n'y a plus aucun ouvrier. Donc le métier est en train de se perdre. Et j'ai plus d'emploi. Je cherche un emploi, mais c'est dur de trouver parce que de plus en plus d'entreprises innovent. Et il n'y a plus de place pour les ouvriers.
Et vous envisagez pas une reconversion vers un poste à plus haute responsabilité, tel que technicien par exemple, pour s'occuper des tours à commande numérique?
J'aimerais, mais les études ne m'ont jamais intéressé. Et j'ai pas beaucoup de perspectives d'emploi actuellement.
Bah, pour rebondir à ce que tu dis, moi au sein de ma société, donc forcément on a des emplois qui se perdent aussi, parce que c'est remplacé par des machines. Sauf que les emplois que l'on a pu, c'est les travaux pénibles. Quand on porte des charges lourdes, des choses comme ça, les travaux répétitifs, eux, sont remplacés par des machines. Et pour les jobs comme vous, qui par exemple, du coup, vous n'avez plus votre métier actuel à cause de nouvelles machines, et ben on propose des formations à nos personnels de l'entreprise. Des formations pour, par exemple, savoir travailler sur un, comme vous dites, un tourneur numérique. Donc, ce qui vous permettrait d'avoir encore un emploi actuel avec une plus forte rémunération par ailleurs.
Vous parlez tout de même de chômage, enfin de vous virer des gens de votre entreprise.
On vire des gens, mais c'est pour le bien de la société aussi.
Oui, pour le bien de votre société.
Oui, mais
pour
si on ne vire personne, et ben on peut pas suivre les marchés étrangers. Donc. Oui, mais au final, tout le monde sera au chômage.
Comme le dit Monsieur Châtier, certaines personnes ne peuvent pas reprendre des études comme ça. Ça demande beaucoup d'investissement et ça demande beaucoup d'apprentissage. De quand on a fait un métier toute sa vie, d'aller vers un métier comme technicien ou ingénieur, parce que on ne commande pas un poste à commande numérique, c'est automatisé dans vos entreprises.
Oui. J'ai mis 10 ans à être formé convenablement pour devenir un bon tourneur préseur.
Néanmoins, je tiens à préciser certaines choses. Que certes, l'innovation, les robots qui remplacent des hommes, c'est un fait. Il faut savoir que 58 millions d'emplois sont créés de par le remplacement justement d'humains à la place de...
Et combien sont perdus ?
58 millions dans le monde ?
Créés.
Dans le monde, en Europe ?
En Europe.
En Europe. Sur un an ?
Pour 30 millions de perdus. C'est pour ça, en fait, que chaque entreprise a le devoir de... comme l'a souligné mon collègue Bellatière, de former justement ces employés qui sont licenciés à justement un travail différent, certes, que votre métier, votre précédent métier, tourneur, afin peut-être de rendre le travail plus facile et plus agréable, car on ne va pas se le cacher.
Et voilà, et aujourd'hui, il n'a plus d'emploi, donc c'est bien de rendre le travail plus facile et plus agréable. Mais aujourd'hui, il n'y a plus l'emploi. Oui, on en crée beaucoup plus que ce qu'on en enlève, mais on crée des emplois, mais pour qui ? Pas pour les personnes au rang de Monsieur Châtier. On crée des emplois pour des personnes qui ont un bac plus 8, un bac
pour
plus...
Pour les nouveaux arrivants.
Voilà, tout à fait. Donc, sur ce point de vue-là, l'automatisation, je suis contre parce que... Ça perd beaucoup d'emplois et aujourd'hui les gens sont au chômage. Certes, ça en crée, mais c'est pas une solution pour la société d'aujourd'hui.
Je n'imagine pas à 42 ans reprendre des études pour apprendre à.
Tout à fait.
Oui, c'est impossible.
On parle pas de reprendre des études, on parle d'avoir une formation. Mmh. Cette formation,
elle sera. Cette formation.
Oui, non, mais.
Cela ne lui a pas été reproduit.
Dans votre cas, mais pour la plupart des sociétés aujourd'hui, dans la mienne, c'est ce qu'on réalise. Vous avez une formation en même temps.
Mais vous, Monsieur Belotier, excusez-moi, vous serez prêt à prendre Monsieur Châtier en formation ?
Oui, par exemple, s'il a été 10 ans tourneur préseur, il n'y a aucun problème.
Très bien, ça, je serai intéressé.
Mais si vous investissez dans de tels robots et dans de telles machines à haut coût, c'est bien sûr pour économiser sur de la main d'œuvre derrière, sinon ce n'est pas rentable pour vous. Vous n'allez pas embaucher autant, en plus à des postes plus rémunérés que vous aviez de poste, donc vous êtes un peu
mais non, parce
flou là-dessus volontairement.
On a aussi des gens dans notre formation qui sont comme vous, on leur a proposé cette formation pour travailler sur les tours numériques et ils ont totalement refusé, donc, ce qui est un peu votre cas au départ.
J'ai rien refusé, bon moi.
Oui, on leur a rien proposé.
Et vous pouvez pas avoir un meilleur rendement, enfin vous êtes obligé de virer des gens pour avoir un meilleur chiffre d'affaires. Vous pouvez pas payer plus les gens et investir dans des machines, payer plus ceux que vous allez virer. Ce que vous avez reformé.
Et c'est ce qui se passe en ce moment.
Parce que du coup, on est bien plus rapide avec ce matériel-là.
Mais du coup,
on gagne en productivité.
Oui, vous gagnez en productivité, mais vu que d'un côté, vous allez payer plus cher.
Vous allez payer les machines, les formations,
voilà. Plus cher les gens. Vous gagnez plus.
Vous gagnez quand même plus.
Oui.
Vous êtes plus compétitif.
Si, on est toujours compétitif justement, c'est pour ça qu'on fait des investissements comme ça.
Les premières réactions arrivent sur notre hashtag tout en actu. Je propose donc de voir deux tweets qui se rapprochent l'un de l'autre. Est-ce que vous pouvez passer s'il vous plaît là-bas? Bah, je sais, ouais. Donc on a le premier de Jean Rouve qui nous dit « J'ai l'impression d'entendre beaucoup de découvertes sur de nouveaux produits, procédés ou nouvelles technologies, mais peu de découvertes sur le recyclage dans tout ce que l'on crée. De tout ce que l'on crée. Pourquoi si peu d'avance? C'est pas assez lucratif ?» Et un autre qui le rejoint « Et le recyclage de tout ça, de tout ce que l'on génère avec toutes ces innovations dans tout ça ?» Alors que faites-vous vous, pour aller dans ce sens, par exemple, monsieur l'industriel Jean-Paul Belotière, Jean-Claude Belotière?
Déjà, on essaie d'utiliser des énergies renouvelables.
Là, on parle bien ici de recyclage, hein, pas d'énergie verte, bah, ça, c'est un autre débat.
Donc, par rapport au recyclage, les nouveaux matériels actuels diminuent le nombre de déchets sur nos pièces.
Le fameux lean manufacturing dont on entend parler de plus en plus.
Ouais. Après, le recyclage, ça a toujours été un sujet tabou dans notre milieu. Mmh. Donc, il a toujours été en s'améliorant.
C'est pas tabou. Depuis, je trouve pas que ce soit un sujet tabou.
Dans le milieu industriel?
Oui, j'ai l'impression que justement, plus on innove dans le milieu industriel, plus on pollue.
Et justement, c'est pour ça.
Vous pensez que ça devrait pas l'être?
Et du coup, ils osent pas trop en parler parce qu'ils savent que c'est.
Pourquoi vous pas dans ce sens-là?
Si, on essaye, on fait le plus possible. Enfin, là, par exemple, on peut voir que les entreprises actuelles, si on prend la même entreprise il y a 10 ans et maintenant, on a 15% d'économie d'énergie.
Mais vous essayez, vous...
Et en recyclage.
Vous avez parlé tout à l'heure de plus en plus compétitif. Et si vous voulez être de plus en plus compétitif, les autres font de même, on pollue de plus en plus.
L'un ne va pas forcément avec l'autre. On peut être plus compétitif en étant plus vert aussi. Il faut savoir que c'est la politique de chaque entreprise maintenant, selon certaines législations qui sont faites dans les chartes industrielles, visant à justement augmenter leur compétitivité, certes, tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Donc il faut savoir qu'elles ont des normes de CO2 à respecter, de même que des normes de déchets à respecter. Si, il y a une...
si je peux me permettre, vous achetez une nouvelle machine, vous formez des gens, vous les payez plus cher, et en plus de ça, vous êtes plus compétitif et vous arrivez à être.
Et en même temps, voilà, c'est ça.
Tout ça,
les nouvelles machines sont automatiquement plus vertes parce qu'elles doivent respecter les normes actuelles et c'était pas du tout les mêmes qu'il y a 40 ans. Mm-hmm. Du coup, si on achète une nouvelle machine, elle sera forcément, dans tous les cas, plus verte que celle qu'on a déjà depuis 20 ou 30 ans.
C'est un peu contradictoire parce que quand vous achetez une nouvelle machine, vous produisez une nouvelle machine alors que vous en aviez une. Alors, est-ce que l'ancienne est recyclée? Ça, je ne sais pas comment ça se passe. Mais, monsieur Dampierre, avez-vous des solutions pour pousser la recherche dans les entreprises, dans les instituts, pour trouver de réelles solutions dans ce domaine? Est-ce que vous avez proposé des choses là-dessus?
Alors, il faut savoir avant tout que la recherche pour l'innovation verte est une véritable problématique politique. On cherche sans arrêt à favoriser le développement des entreprises tout en protégeant notre planète. Donc depuis
Que c'est conciliable donc?
Oui, c'est totalement conciliable. C'est pour ça que depuis 25 ans, la croissance annuelle des brevets verts a augmenté de 15,8%.
La pollution aussi?
La pollution n'a pas forcément augmenté, elle est stable.
Ah bon? Il y a une bonne...
Un bon
millier de rapports qui prouvent le contraire.
Ils ne respectent pas les chartes qui ont été...
Mais
on les respecte en France.
Vous achetez aussi des produits qui ne respectent pas ces chartes. Par exemple, votre smartphone, et je pense pas qu'il a été complètement conçu en France.
Même pas vous.
Et sûrement en Chine, par exemple. Et il a des composants qui font qu'ils sont pas recyclables aujourd'hui. On innove toujours dans la nouvelle technologie, mais les composants qu'on utilise ne sont pas recyclables. De plus, il y a l'obsolescence programmée, donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, vous allez forcément le changer. Donc, en fin de compte, dans l'innovation, oui, c'est bien d'innover, d'avoir un téléphone toujours plus grand, toujours plus fin, toujours plus performant. Mais en fin de compte, il n'y a aucun recyclage derrière possible.
Moi, je m'intéresse beaucoup aux voitures. Et j'ai appris que les voitures électriques, ça polluait autant que les voitures...
Tout à fait.
Les voitures. Comment vous expliquez l'innovation, ça aide pas à...
Totalement. Néanmoins, pour revenir à ce que vous avez dit, Madame Favot, je ne suis pas le responsable savant qui gère un petit peu comment sont faits les smartphones. Donc ce n'est pas de mon ressort de décider où sont fabriqués les smartphones. Des lois sont faites au niveau mondial, des lois sont faites à l'échelle aussi nationale.
Pourquoi vous ne faites pas des lois pour les emplois, par exemple?
Ah, il y en a.
Qui perdent leurs emplois. Moi, j'ai pas été dédommagé.
Je ne peux pas m'assurer que chaque directeur d'entreprise respecte les lois. C'est dans son devoir.
Pour rejoindre ce que vous disiez sur les ressources naturelles, selon la revue Géo, qui a publié dernièrement un calendrier de l'épuisement des ressources naturelles, l'or, composant essentiel dans la fabrication des composants électroniques dont vous parliez, ainsi que l'indium et le zinc seront épuisés en 2025, enfin les gisements exploitables. Cette année, c'est le hafnium, matériau utilisé dans l'industrie nucléaire, dont les derniers gisements exploitables se sont épuisés. Et en 1980, c'est ce qui était arrivé à la cryolite. Avec ce contexte, ne devient-il pas évident que nous devons nous diriger vers un modèle de décroissance viable au long terme ? N'y serons-nous pas contraints dans quelques années ?
Si je peux intervenir là-dessus...
Vas-y, monsieur Châtier.
Parce que si on continue comme ça, il n'y aura plus d'emplois. Si on est remplacé par des machines numériques. Moi le premier...
Non, la question, c'est plus l'épuisement des ressources.
Oui, mais si on va vers, vers l'innovation, on va épuiser toutes les ressources.
C'est pour ça que chaque année...
Il faudrait mieux arriver à des emplois plus simples.
Innover, oui,
ça. Tout innover en réutilisant les matériaux déjà utilisés. Donc, trouver des solutions.
C'est
de très nombreuses lois sont
très
faites actuellement. Nous, à l'échelle politique, on ne peut qu'inciter les gens à être éco et à être autonomes. Donc,
oui, mais vous savez bien que dans les composants électroniques, l'or, les terres rares, tout ce qui est utilisé dedans, sont quasiment... aucunement recyclé. Il n'y a que le verre et l'aluminium qui le sont vraiment.
C'est donc au domaine scientifique de s'intéresser à comment recycler ces matériaux.
Oui, c'est pas dans mon domaine, mais j'ai aussi des coopérations avec d'autres chercheurs, dont l'écologie. Mais oui, il y a la recherche de nouvelles énergies comme la biomasse. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que on épuise toujours les énergies, les matières premières, mais on essaye, par exemple, en Chine, il y a un train à suspension magnétique, un train qui utilise la production d'hydrogène et de l'eau, enfin qui fonctionne à l'hydrogène et à l'eau. Et donc là, c'est une avancée considérable. Donc là, on n'utilise plus du tout d'essence ou quoi, donc on ne pollue pas. Après, c'est encore à développer, donc la recherche est dessus, mais sauf que la recherche, oui, c'est bien de dire que c'est aux chercheurs de trouver la solution, mais il faudrait aussi que les chercheurs ils aient l'argent pour trouver la solution.
Et vous ne pensez pas que le train à l'hydrogène à l'eau n'est pas ce qu'on nous vend depuis maintenant longtemps comme le nouveau transport à chaque fois qui viendra être écologique et révolutionner le reste, comme on nous a vendu la voiture électrique il y a 10 ans et maintenant on se rend compte qu'elle pollue autant.
Tout ça, là, il n'y a pas encore eu de preuves comme quoi ça polluait autant que les voitures. Mais après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aussi beaucoup d'argent pour pouvoir mettre en place ces transports.
C'est pour ça, chaque année, nous donnons plus de 25 milliards d'euros à la recherche.
Milliards.
À peu près, oui.
Un quart du PIB, donc.
Oui.
Ok, bon. Je suis pas sûr d'avoir ces chiffres, mais à revérifier.
Ils sont fous.
Ouais. Non, c'est pas totalement.
Et
c'est
monsieur industriel, dans votre bureau d'études, est-ce qu'il étudie des nouvelles solutions pour le recyclage, par exemple?
Bah nous, on étudie toujours des nouvelles solutions parce que qui dit recyclage dit ça nous évite de racheter des matières premières. Donc nous, on gagne aussi notre argent. Donc comme quoi, l'innovation ici, le recyclage peut aussi nous faire gagner de l'argent.
Pardon.
Donc on a tout à gagner à pouvoir recycler nos produits.
Vous pensez toujours rentabilité, mais je pensais pas du tout aux hommes.
Ah bah ça,
oui,
c'est...
Mais je suis totalement d'accord.
C'est un industriel.
Sauf que c'est mon travail aussi.
Mais si vous faites pas des emplois, vous faites...
Vous n'avez pas votre propre conscience de mettre à la porte des hommes
si, totalement.
Qui ont une famille derrière.
Là, en innovant dans mon entreprise...
Il n'y a pas de loi sur ça non plus.
Si j'innove dans mon entreprise, je vais peut-être me séparer de 5 ou 10 personnes. Sauf que si j'innove pas, mon entreprise va couler et je vais mettre 250 personnes à la porte. Donc j'ai... Même pour eux, enfin ils ont. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix de faire ça.
Et il n'y aurait pas d'autres moyens de.
Pour l'instant, on n'en a pas. Donc on fait comme ça.
Parce que vous voulez toujours plus si vous restiez.
Bah oui, sauf que les autres veulent plus aussi. Du coup, il faut qu'on soit concurrentiel avec.
Justement, je reviens là-dessus. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ralentir notre implication dans la recherche d'innovation dans un contexte ultra compétitif comme celui d'aujourd'hui?
Pour moi, c'est impossible.
Vous pensez?
Bah, on peut pas, enfin, on a les marchés étrangers, ils ont manœuvre déjà beaucoup plus basse. Donc si on n'innove pas, si on...
Mais en innovant, on explose aussi l'écart entre les pays. Plus en plus d'écart entre les pays, plus la France et certains pays d'Afrique, il y a un écart énorme qui se crée à cause de l'innovation.
Oui, je suis tout à fait.
On est complètement en décalage par rapport à eux.
Tout à fait. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc il y a vraiment l'accès à l'innovation n'est pas n'est pas égal pour tout le monde. On voit que par exemple en Occident il y a les personnes ont beaucoup plus accès que par exemple sur le continent africain où il n'y a pas d'innovation pour ces pays, ou alors il faudrait innover du coup pour permettre à ce que tout le monde puisse en profiter en fait.
Même l'accès à l'eau c'est basique, et pourquoi on n'innove pas dans les autres pays aussi? Parce que là il faudrait faire une sorte d'harmonisation de l'innovation.
C'est pour ça que chaque année nous essayons d'aider également les pays en développement afin que ces derniers essayent de nous rejoindre et donc de limiter un petit peu cette compétitivité, essayer plus de créer une union mondiale. Sauf que cela est encore des beaux projets, des belles paroles, et que c'est compliqué à mettre en place.
Oui, voire même impossible, dans l'immédiat en tout cas. Et est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas justement légiférer pour ralentir un peu, contrôler cette libre concurrence et peut-être aller vers une conscientisation des conscients, enfin des gens, et pour une meilleure consommation plutôt que
ralentir,
que vouloir être meilleur que ceux d'à côté et produire plus pour moins cher.
Ça va être la perte de
on a bien vu que c'était pas conciliable avec les ressources finies de terre. On a passé le 2 août dernier le jour de dépassement où on a pris à la terre ce qu'elle pouvait produire en une année, alors que on était à quasiment
à
la moitié.
C'est à cause de gens comme nous.
Exactement.
On va vouloir innover.
C'est vrai, mais
on va vers la perte de l'humanité.
On en est conscient, mais aussi on essaie d'innover avec des matériaux qui n'utilisent moins les ressources de la terre. Donc des matériaux recyclables ou des ressources renouvelables.
Mais comment vous expliquez que l'industrie, c'est ce qui pollue le plus?
C'est ce qui pollue le plus. Mais c'est la plus grande forme de puissance de la planète aujourd'hui aussi.
Mais si ça continue, la planète, elle va...
De puissance? Vous pouvez préciser ce que vous dites? Comment ça, de puissance?
Vous enlevez l'industrie à cette planète, vous ne serez pas assis sur cette chaise ici.
Mais on pourrait penser qu'elle irait un peu mieux quand même, mais
ouais,
pour la planète. Mieux. Après, pour le confort des humains, oui, ça c'est discutable. Ouais. Ok.
On n'a pas parlé depuis le début de l'impact sur la santé. Et pour moi, c'est un des grands problèmes de l'innovation aussi, en plus de tout le reste.
Très important.
C'est même les téléphones, les ondes des téléphones, ça rend les gens terribles. Ça a des effets néfastes sur ça crée des maladies, avec tout ce que les industriels rejettent.
Oui, tout à fait, mais ça en a aussi beaucoup guéri.
Oui, mais toutes les maladies qui sont créées.
J'aimerais bien savoir.
Je parle des nouvelles maladies.
Et les anciennes, combien ont été annulées par justement cette innovation?
Oui, mais ça, c'est une vieille innovation.
Innovation de 100 ans, et ça l'est toujours.
Mais vous faites quoi pour les nouvelles maladies à cause des smartphones, à cause des micros, à cause des rejets dans l'eau de...
Venons-en au côté, à la question éthique de l'innovation. Est-ce que vous, par exemple, vous quatre, dans vos différentes positions, qu'est-ce que vous pensez de la téléchirurgie de ces médecins qui viendront opérer à distance, ou comme on a vu dans l'émission de la dernière fois, ces robots qui viennent parler avec les patients à la place du médecin? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous pensez que ça donne accès à des gens qui n'ont pas accès à la médecine, ou au contraire que il n'y a plus le côté humain qu'on peut y retrouver?
Je connaissais ma réponse, j'ai été viré de mon emploi, donc je suis très concerné par ça.
Par la télémédecine?
Par la télémédecine, mais par être remplacé par des machines.
Là, je parlais plus du côté éthique et innovation, et qu'est-ce qu'on en pense de cette médecine à distance?
Après, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur Châtier. Certes, il y a des robots médecins, mais cela ne perd pas des emplois, parce que derrière chaque robot, il y a un médecin. Et du coup, c'est la cobotique. Donc en soi, sur ça, sur l'investissement de la médecine, on ne peut pas dire grand-chose. Après, sur l'éthique, le problème, c'est que... les gens aujourd'hui ne sont peut-être pas tous prêts à faire confiance à un robot.
Oui, s'il y a un médecin derrière chaque robot, pourquoi le robot est-il là?
Oui, mais...
pour être beaucoup plus précis.
Et dans ce cas-là, après, il y aura un robot secrétaire, des robots pour tout.
Exactement, mais la précision, on la donne pas pour une consultation. C'est pas l'intérêt.
Ça dépend. Pour des opérations, il y a besoin de beaucoup de précision et... pour être plus précis, et aussi pour la coopération entre les différents États, par exemple, comme on a pu entendre des médecins états-uniens puissent opérer en France tout en restant chez eux. Cela permet Donc cela va permettre en fait de, bah, du coup, de pas utiliser des énergies vu qu'il n'a pas besoin de transport, donc ça, entre guillemets, ça pollue
mais
pas.
Mais est-ce qu'on en a besoin de tout ça? Est-ce qu'on en a besoin? On a des chirurgiens très qualifiés en France,
oui,
pourquoi on irait chercher ceux aux États-Unis?
Parce qu'on a toujours besoin de coopérer, on a toujours besoin de savoir ce qu'on fait à l'étranger pour évoluer.
Je suis totalement d'accord avec
Mais toi. Là, on ne parle pas de savoir ce qu'ils font, mais de bien faire à la place. Donc on peut se poser la question. En tout cas, je vous remercie pour ce débat.
Si je peux ajouter une dernière chose.
Une dernière chose.
Je voulais en parler à monsieur Dampierre. Du coup, bah, moi j'ai perdu mon emploi et l'innovation, ça a entraîné une inflation des prix énorme. J'ai une perte de pouvoir d'achat énorme et les coûts sont de plus en plus élevés. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas changer de voiture, je peux plus.
Bon, une dernière réponse très courte.
Une réponse.
Alors, l'inflation du pouvoir d'achat est un cas réel pour tous les ménages français.
Oui,
donc,
je suis d'accord.
Donc de
on
ne
peut
hein.
absolument rien faire pour le diminuer, si ce n'est que diminuer les taxes que nous exerçons sur chaque produit, ce qui signifierait qu'on limiterait les taxes données à la recherche pour l'innovation et donc
25 milliards, rappelons-le.
C'est les coûts de l'innovation qu'entraînent ces coûts-là.
Exactement. Donc,
je vous remercie en tout cas.
C'est le monde qui s'est emballé et jusqu'à là, on...
Si on perd des emplois, on perd du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on va devenir enfin...
Je vous remercie. Donc pour ce débat, donc au revoir tout le monde et je vous remercie pour votre intervention et d'être venu nous voir.
Merci encore de nous avoir invités.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tout en Actu.